Bonjour à tous, c'est une joie d'être au milieu de vous ce matin. C'est pas la première fois que je prêche, vous savez, vous m'avez déjà entendu, mais ce matin c'est quelque chose de particulier, étant donné les circonstances. Et c'est vendredi soir, on parlait avec un jeune qui nous disait « Est-ce que c'est difficile de préparer des prédications ?» Je lui dis « Non, c'est pas difficile. » Ce qui est le plus difficile et le plus stressant, entre guillemets, c'est de vraiment chercher la pensée de Dieu, afin que les cœurs soient touchés par le Seigneur. Et ce matin, c'est quelque chose de très simple que je voudrais vous apporter. C'est de se trouver, on va lire d'abord dans les Actes, au chapitre 13. Actes, chapitre 13, verset 13. Actes, chapitre 13, verset 13. Il s'agit de Paul. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Et je voudrais m'arrêter là. Ce matin, je voudrais prendre l'exemple de Paul pendant quelques instants. Si vous me le permettez, bien sûr, je voudrais me lever, c'est déjà fait, faire signe de la main et vous dire, hommes frères et sœurs de Sainte-Agne, vous qui craignez le Seigneur, écoutez ces simples exhortations que je voudrais vous apporter, qui se trouvent dans la parole de Dieu. À trois reprises, l'apôtre Paul, dans l'épître des Romains, a dit quelque chose de tout simple. Je vous exhorte. Et ce matin, je cherchais qu'est-ce que je pouvais apporter à l'église de Sainte-Anne pour manifester cette reconnaissance aussi que j'ai envers chacun d'entre vous, pour ces trois années que vous avez accepté de me supporter et de me former. Monsieur Go a dit amen avec profondeur. Et j'ai eu cette pensée tellement toute simple. Je vous exhorte. Je voudrais vous exhorter sur trois de ces aspects qui sont donnés. D'ailleurs, vous allez remarquer, au fur et à mesure qu'on va les citer, qu'ils ont tous été abordés ce matin, déjà. Donc ce n'est que des rappels de ce que le Seigneur a déjà dit au travers des chants, au travers des prophéties, au travers même des annonces. Vous allez voir, la première se trouve dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1er. Et à la limite, on pourrait seulement s'arrêter à cette première exhortation. Romains chapitre 12, verset 1er. C'est un des rares versets que j'ai appris par cœur. Il faut que je continue, hein, malgré le fait que je ne sois pas plus là. Je vous exhorte donc. Vous y êtes à Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. On pourrait lire tout le chapitre pour bien comprendre ce que Paul veut dire, mais je crois que rien que ce verset est suffisant déjà pour nous interpeller ce matin et nous rappeler cette exhortation que Paul nous lance à tous. Et je me mets au milieu de vous en entendant ce verset à nouveau. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps tout entiers. Le dernier chant qu'on a chanté nous disait ceci dans le refrain, « Prends Jésus, prends ma vie. » Elle est toute à toi. Vous l'avez chanté ce chant? Est-ce que vous en avez assez de le chanter? Parce qu'on l'a pris tellement souvent? Ou est-ce qu'à chaque fois que vous le répétez, vous dites toujours cette prière, Seigneur, oui, je veux offrir mon corps tout entier, comme un sacrifice vivant. Et vous avez remarqué comment Paul il fait pour motiver ce sacrifice que l'on doit apporter au Seigneur. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Si moi je vous disais, il faut que vous offriez votre vie au Seigneur, vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va motiver cela? Et Paul, lui, il explique tout simplement par les compassions de Dieu. Est-ce que vous croyez que les compassions de Dieu sont suffisantes pour que nous offrions notre vie tout entière au Seigneur? Et pas seulement juste ce matin, dimanche matin, mais tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, ou jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, est-ce que c'est suffisant? C'est amplement suffisant. Parce que quand on regarde toutes les compassions de Dieu à notre égard, la profondeur, la richesse de la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans chacune de nos vies, quand on voit de quelle manière le Seigneur a accepté de venir mourir à la croix, sur le bois de la croix pour notre péché, pour prendre notre jugement, alors que nous étions tous, autant que nous sommes, nous étions de ceux qui lui tournaient le dos, rebelles, nous ne voulions pas de lui, de son amour, le Seigneur a eu compassion de nous et il a donné sa vie. Il nous a créés, il est pas seulement resté au tombeau, mais il est ressuscité. Et maintenant, dans le ciel, est-ce qu'il continue de s'intéresser à nous? Est-ce qu'il continue d'avoir compassion? Oui, il est là en train d'intercéder à la droite de Dieu en notre faveur. Est-ce que c'est pas beau la compassion de Dieu? Et on pourrait multiplier les exemples. Toutes les fois où le Seigneur a agi, manifesté sa main bénissante, guérissante dans les situations, quand on était malade, quand on n'allait pas bien, quand on était découragé, qu'il a permis qu'il y ait une parole particulière qui nous touche, le Seigneur manifeste ses compassions. Quand on a cette espérance que beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas aujourd'hui par rapport à l'éternité, à ce qu'il y a après la mort, il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas. Ils sont totalement dans le flou, ou alors ils sont dans l'athéisme profond, mais ça ne leur amène pas pour autant beaucoup de joie. Alors que nous avons, nous, cette joie, toute simple, de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et combien nous devons être reconnaissants au Seigneur. Mais toutes ces choses sont là pour nous pousser à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Et vous avez remarqué qu'il est dit « ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». Ah, l'apôtre Paul, il s'intéresse au culte du dimanche matin, c'est ça que ça veut dire? Non, c'est pas ça. Quand il parle du culte, littéralement, c'est le mot « service », justement. Comment est-ce que nous pouvons faire pour compenser, entre guillemets, toutes les compassions de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons faire pour être redevables au Seigneur de tout ce qu'il a déjà fait pour nous? Est-ce qu'il faut parler en langue? Est-ce qu'il faut exprimer les dons spirituels? Bon, bien sûr, ça en fait partie. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir à égaler les compassions de Dieu? Non. Est-ce que, l'apôtre Paul a pris des exemples, est-ce qu'il faut donner ses biens aux pauvres pour qu'on soit à égalité avec Dieu par rapport à ses compassions? Non. Est-ce qu'il faut livrer son corps pour être brûlé? Vous voyez à quel passage je fais allusion? Non. Parce que si on peut faire toutes ces choses sans amour. Et si on fait ces choses sans amour, la Bible nous dit, ça ne sert strictement à rien. Pourtant, c'est des choses quand même qui sont bien, qui sont même merveilleuses quand on les considère. Mais si elles sont faites sans amour, ça ne sert strictement à rien. La seule chose et unique que le Seigneur nous demande de faire en réponse à ses compassions qu'il a exprimées dans notre vie, c'est d'offrir nos vies entières à son service, offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Vous savez qu'il y a eu la persécution, on voit dans les actes le début de la persécution qui a touché Jérusalem et puis qui a commencé à toucher tout l'Empire romain par rapport à ces chrétiens qui refusaient d'adorer l'empereur, qui refusaient les idoles et qui désiraient manifester leur foi. Ils se sont retrouvés confrontés à la persécution. Jésus d'ailleurs les avait prévenus. Mais il s'est développé au cours du 2e, 3e et 4e siècle. Dans l'histoire, on s'est raconté qu'il s'est développé un courant de ce qu'on appelait les martyrs volontaires. C'était des gens qui venaient taper aux autorités de Rome et qui disaient « Je suis chrétien, mettez-moi à mort ». Et ces gens-là, ils cherchaient à avoir une plus grande récompense dans le ciel en disant « Mais si je meurs pour le Seigneur, je vais être forcément plus béni dans le ciel. Je vais avoir une certaine récompense ». Et c'est vrai que je crois que quand quelqu'un qui le fait parce que c'est conduit par le Seigneur, par exemple comme Étienne, voilà. Merci Monsieur Gault. Vous avez lu mes notes. Comme Étienne, qui était dans cette situation où il parlait avec, inspiré par le Saint-Esprit, il parlait, il témoignait à ces juifs, ce qui était rempli de colère, ils se sont mis à le lapider. Vous savez qu'à ce moment-là, il est arrivé jusqu'à la mort. Même si le Seigneur l'a gardé dans ses instants, il s'est endormi paisiblement alors qu'il était en train d'être lapidé. C'est un miracle qui s'est passé à ce moment-là. Mais il y a des personnes qui ont une vision déformée. Et peut-être qu'ils ont entendu parler d'Étienne, peut-être qu'ils ont lu l'exemple d'Étienne dans les actes, et ils ont voulu que aussi avoir la renommée par rapport à leur mort. Parce qu'en plus, l'Empire romain, à ce moment-là, ils organisaient, vous savez, les spectacles, les amphithéâtres où ils mettaient les gens à mort, et les gens venaient, certains étaient des martyrs volontaires. Est-ce que c'est ça, offrir son corps comme un sacrifice? Je vous le demande. Et vous m'avez répondu, non, parce qu'il est bien précisé, un sacrifice vivant. Et est-ce que ce n'est pas peut-être beaucoup plus dur que d'offrir un sacrifice vivant, c'est-à-dire de choisir de rester dans un monde enténébré, dans un monde où règne le péché et le mal, et de choisir de marcher, nous, dans la sainteté, de marcher comme des enfants de lumière, afin que nos vies puissent avoir ce témoignage qui va refléter autour de nous. Oui, c'est sûr que des fois, il y a certaines personnes, même dans la Bible, qui ont demandé la mort parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient harassés, et ça peut nous arriver à un moment donné de faire des prières comme ça. Mais souvent, ces prières-là, elles n'ont pas été exaucées. Je me souviens de l'exemple d'Élie. Élie qui demandait la mort, il n'a pas reçu la mort. Et il n'a même pas reçu la mort du tout. Il a été emporté dans le ciel, vous savez, l'histoire. Vous voyez l'humour du Seigneur. Parce que le Seigneur nous appelle à offrir nos vies comme des sacrifices vivants, à marcher dans cette sainteté qui consiste à se détourner du mal. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et qu'est-ce qu'il est dit après ? Je ne me souviens plus des paroles, mais ça parlait du mal. Et dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Est-ce que la sainteté, ce n'est pas justement de choisir, de nous détourner de tout ce que la Bible nous dit qui est mal, de tout ce que Dieu n'aime pas ? Et justement, quand on fait cela, le sacrifice, c'est quelque chose qui devient agréable à Dieu, quelque chose qui plaît au Seigneur. Je vous exhorte à offrir vos vies, à renoncer à vous-même. Peut-être c'est le seul conseil que vous devez retenir ce matin. J'aurais pu prendre tellement de textes qui étaient là, qui bouillaient sur mon cœur pour vous apporter, mais je crois que le Seigneur a vraiment conduit cela. J'aimerais que vous ne vous souveniez pas, un petit peu quand même, de Michel Fontaine, mais que vous vous souveniez surtout de cette parole de la Bible. Parce que je crois, bien sûr, il y a une affection, une amitié fraternelle, toutes sortes de choses qui se sont développées et qu'on ne peut pas mettre une croix dessus, au contraire. Mais combien c'est tellement plus important que d'offrir nos vies comme des sacrifices vivants. Combien c'est important. Et souvent, on entend des gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai rien reçu. Ah, mais moi, le Seigneur ne m'a rien donné. » Est-ce que vous croyez que ce n'est pas quelque chose, peut-être, qui est offensant envers Dieu ? Ça va quand même loin. Ça paraît tout petit, mais combien ça remet en question même la parole. Regardez dans ce chapitre même, au verset 6, regardez ce qu'il dit. « Puisque nous avons des dons différents. » Selon la grâce qui nous a été donnée. La Bible nous dit que nous avons tous des dons différents. Ce n'est pas marqué tous, mais c'est bien sous-entendu. Tous le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons tous une capacité de pouvoir le servir. Et puis de toute manière, nous avons tous un corps. Et donc, nous devons tous offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et bien sûr que le service que le Seigneur nous demande, pour l'un, ça sera quelque chose, ça sera s'occuper des enfants, justement, mais pour l'autre, ça sera peut-être seulement rester dans sa chambre et prier, avoir cette vie de prière. D'ailleurs, c'est la seconde exhortation à laquelle je voudrais qu'on aille maintenant. Dans Romains chapitre 15, verset 30, nous voyons justement ce dont il est question. La deuxième fois où Paul dit « Je vous exhorte ». Alors, il est écrit « Je vous exhorte, frères, mais les sœurs, vous comprenez bien que c'est pour vous aussi. Je vous exhorte, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soit agréé des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. » Amen. Paul exhorte les Romains à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, à servir le Seigneur avec la capacité que Dieu leur a donnée. Mais il les exhorte aussi, et je voudrais nous exhorter ce matin aussi, à être de ces hommes et de ces femmes de prière. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on entend, à la limite toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine? Mais c'est vraiment important, parce que celui qui prie, celui qui a véritablement une vie de prière, c'est quelqu'un qui a compris que par lui-même, il ne pouvait rien faire. Celui qui ne prie pas, celui qui n'a pas ce temps de culte chez lui, ça veut dire qu'il montre à lui-même et à Dieu, il montre qu'il n'a besoin de rien. Il n'y a pas une église qui a dit ça? Que le Seigneur a reproché à une église, justement, à l'Apocalypse, de dire « Tu dis, je n'ai besoin de rien. » Celui qui prie, il est comme ça. Celui qui ne prie pas, plutôt. Il est celui qui dit « Je n'ai besoin de rien. » Mais combien c'est important quand on a cette vie de prière. Et on entend parfois des gens qui nous disent, vous les pasteurs, vous êtes payés à prier. C'est vrai quelque part. Mais en plus, une fois on m'a dit ça, mais nous qui avons un vrai travail, donc ça veut, on comprend bien la personne, nous qui avons un vrai travail, on n'a pas le temps pour ça. Combien j'étais peiné quand j'ai entendu cette parole. Parce que ça montre qu'on n'a pas compris du tout. Vous savez, si j'avais choisi par moi-même, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais je ne suis là que parce que j'ai accepté ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et quand j'étais étudiant, je me souviens que j'étais loin de Dieu. Et je vous dis ça pour vous montrer que la prière, le fait de passer du temps devant Dieu, ça ne dépend pas du temps qu'on aurait soi-disant ou qu'on n'a pas, de l'occupation que l'on a ou pas. Quand j'étais étudiant, j'avais quand même du temps. Mais ma communion avec Dieu, j'étais loin de Dieu. Je m'étais éloigné. Et ce qui fait que, pour des raisons et pour d'autres raisons, je ne trouvais jamais de temps pour prier. Et puis un jour, Dieu a touché mon cœur. Dieu m'a ramené à lui. Mon cœur a commencé à brûler pour ces moments où j'étais dans sa présence. Ce qui fait que de tous les moments que je pouvais, je profitais pour prier le Seigneur. Pourtant, j'avais le même planning qu'avant. Il n'y a rien qui avait changé. Je m'organisais différemment, bien sûr, mais je profitais quand j'étais seulement dans le bus, par exemple, des fois. Alors, bien sûr, ce n'était pas là que je faisais mon culte, je ne me mettais pas à genoux dans le bus, je ne chantais pas des cantiques dans le bus, parce que vous savez comment c'est les bus, on est serré, il fait chaud, etc. Mais je profitais de ces moments où on ne peut pas faire grand-chose pour tourner mes regards vers le Seigneur et pour apporter tel ou tel sujet, peut-être pour prier pour une personne qui était à côté. Et il y a eu certaines occasions où j'ai pu parler du Seigneur comme ça. Mais ça ne dépend en fait que d'une chose qui est d'ailleurs écrite dans ce passage. Je vous exhorte, encore une fois, l'apôtre Pierre, il explique pourquoi il nous exhorte à la prière. Par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Vous avez remarqué quand on est rempli d'amour pour une personne et que la personne est malade, combien on va être de ceux qui intercèdent, de ceux qui prennent du temps, qui viennent avec zèle et ferveur pour supplier le Seigneur d'intervenir. C'est sûr, si on nous demande de prier pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est à l'autre bout du monde, qu'on nous dit qu'il est malade, on va le faire quand même malgré tout. Mais il n'y aura pas cette même intensité. Et vous avez remarqué d'ailleurs que Paul, il ne nous exhorte pas à prier, il nous exhorte à combattre dans la prière. Et je trouve qu'il y a là une différence, surtout que le mot combattre, c'est le mot qui a donner le mot français angoisse. Alors, ça, il ne s'agit pas d'avoir des angoisses, mais il s'agit d'une intensité, une profondeur dans notre prière. C'est vrai que souvent, quand on prie, on est là, on le fait de manière bien religieuse, on le fait de manière avec notre checklist, j'ai prié pour tel sujet, on barre au fur et à mesure, et on fait de manière un peu légère. Mais combien le Seigneur nous exhorte à prier, et à combattre même dans la prière, avec cette ferveur. Je me souviens de ce moment. Excusez-moi, Monsieur Gauche, je parle un peu trop d'expérience que j'ai vécue. Vous m'autorisez? Bon, ça va. Je me souviens de ce moment où c'était une réunion de prière. Avant, on avait la réunion de jeunesse et on avait la réunion de prière avant, spéciale pour les jeunes. Et à un moment donné dans cette réunion, j'ai ressenti un fardeau pour un jeune qui était là présent. Et je ne sais pas pourquoi je me suis mis à prier pour lui de tout mon cœur, mais il y avait quelque chose qui me poussait à prier pour lui. Et j'ai prié, et ça ne m'arrive pas souvent, mais je me suis mis même à pleurer pendant que j'étais en train de prier, parce que je sentais qu'il y avait comme un combat qui était là. Et j'ai prié, à un moment donné, je ne savais plus quoi dire, j'ai prié en langue, par le Saint-Esprit. Et puis, la réunion s'est passée, et à la fin de la réunion, ce jeune s'est approché à l'appel. Et après, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Moi, j'étais simplement un jeune parmi les autres dans la réunion. Mais j'ai parlé avec lui et j'ai su qu'il y avait eu un combat dans son cœur et qu'il était en train de lutter par rapport à un péché, quelque chose qu'il voulait abandonner, et qu'à la suite de cette réunion, il avait choisi de prendre la bonne décision et il avait été libéré par le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas ça, combattre dans la prière? Combien, vous ne pensez pas que toutes nos réunions de prière, toutes nos prières personnelles même seraient différentes si on combattait dans la prière? Parce que souvent on est seulement là à prier, et on voit dans toute la planète des hommes et des femmes de différentes religions prient. Mais combien combattent dans la prière? et sont poussés par l'Esprit de Dieu pour combattre sur des choses que Dieu approuve, que Dieu veut. Et c'est sûr que quand on demande des choses qui sont dans la volonté de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est obligé, puisqu'il honore sa parole, il est obligé de les exaucer. Soyons de ceux qui combattent dans la prière. Et vous voyez que les sujets sont nombreux qui sont donnés là. Monsieur Gaulle a rappelé, prier pour les pasteurs. Paul demande de prier en sa faveur. Et moi, je me permets ce matin de vous demander de prier pour moi. Je sais que vous allez le faire. Je ne vous demande pas un effort surhumain. Mais peut-être de combattre dans la prière. Et non seulement pour moi, pour Jonathan, pour Monsieur Gaulle, pour Nicolas qui va arriver, pour tous ceux qui même ont la charge certaines fois d'apporter la parole, de faire les chants, tous ceux qui interviennent dans les réunions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a tous besoin d'être remplis de l'onction de Dieu afin d'être délivrés des incrédules? Oui, il y a des fois des personnes qui sont là comme des obstacles, même dans les églises qui sont là. Est-ce que vous ne pensez pas que les pasteurs ont besoin de ce discernement pour qu'ils soient délivrés des incrédules, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Parce que c'est ça que Paul est en train de dire. Je vous exhorte à combattre dans la prière. Je vous exhorte à combattre pour que même les dons qui ont été préparés pour les frères et sœurs de Jérusalem puissent être reçus dans la joie. Et c'est ce que M. Gaud nous a partagé tout à l'heure. Combien c'est bien de prier pour que l'argent soit bien employé, mais combien c'est mieux de combattre dans la prière. Et c'est sûr que le fait d'inviter les personnes pour exprimer leurs besoins et expliquer avec leurs mots les réalités qu'elles vivent tous les jours, combien c'est quelque chose qui va nous permettre de les aimer encore plus et donc de pouvoir combattre dans la prière. Je voudrais continuer et finir avec ce dernier point dans Romains chapitre 16, juste après. C'est au verset 17. Il est dit ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Amen. Je vous exhorte, frères, à prendre garde. Le Seigneur nous exhorte non seulement à prier, mais vous savez, aux disciples, quand ils étaient dans le jardin de Gethsémané, il leur a dit pas seulement prier, et il leur a dit surtout veiller. Parce qu'on peut avoir offert notre vie en sacrifice vivant. On peut avoir une vie de prière, mais si à un moment donné on se lasse, on se décourage et on baisse les bras, à quoi ça sert? À quoi ça sert de bien commencer une course et de ne pas aller jusqu'au bout de la course? Imaginez Usain Bolt, le champion du monde du 100 mètres, qui court à sa vitesse vertigineuse sur les 50 premiers mètres. À quoi ça sert? Il a beau dépasser tout le monde à 50 mètres, après c'est tout le monde qui va le dépasser. Et notre vie chrétienne et cette course, on ne fait pas la course entre nous, bien sûr, vous savez, mais chacun est appelé à aller jusqu'au bout. Et combien c'est important que nous puissions prendre garde, que nous puissions veiller, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on a besoin de veiller. Le Seigneur Jésus l'a dit à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi? Parce que la chair est faible. L'esprit, il est bien disposé, ça c'est sûr. Le cœur, il veut toujours aller, il aime le Seigneur, etc. Mais la chair est faible. Voilà pourquoi on a besoin de veiller et de prier. Voilà pourquoi on a besoin. Et vous savez, il y a des paroles qui m'ont interpellé quand j'ai relu la Bible. Je l'avais lue de manière religieuse, mais quand j'ai commencé à la lire de manière, avec tout mon cœur, il y a des paroles de Jésus qui m'ont interpellé. Quand il dit que l'amour du plus grand nombre refroidira. Est-ce que ce n'est pas une parole qui nous fait peur, qui fait hérisser les poils quelque part quand on lit ce passage? C'est sûr, quand notre vie de prière, elle est au point mort, quand on n'a pas offert notre vie en sacrifice vivant, c'est une parole qui peut faire peur. Mais quand on choisit de se laisser enseigner par cette parole, quand on choisit de marcher dans cet état d'esprit d'attention particulière, de prendre garde, de veiller sur notre vie, alors cette parole nous encourage et nous dit que le plus grand nombre va refroidir, mais ça veut dire qu'il y a un petit reste qui ne va pas refroidir. Et moi, je veux être de ceux-là. C'est comme ça que je l'ai compris. Et j'espère que c'est votre parole aussi, votre déclaration. Nous voulons être de ceux dont l'amour n'a pas refroidi. Mais tout est fait dans ce monde pour refroidir notre amour. Tout est fait dans ce monde pour pas que nous puissions offrir notre vie en sacrifice vivant. On va offrir notre corps pour toutes sortes de choses. Monsieur Go a dit, c'est vrai que c'est bien de prendre soin de son corps, mais des fois, on se laisse piéger par cela et on prend tellement soin de notre corps qu'on oublie de l'offrir en sacrifice vivant. Et c'est comme ça que l'amour refroidit dans notre corps. Jésus a dit aussi cette parole dans le cadre de la prière. Il a dit quoi? Quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous vous souvenez ce contexte quand il parle de le juge inique, la pauvre veuve qui est là, dans Luc au chapitre 18, vous vous souvenez de ce moment où Jésus dit, et en plus il explique pourquoi il raconte cette histoire, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Prier et veiller, hein, quelque part. Ça, on pourrait traduire comme ça. Prier et prendre garde à toujours prier, finalement. Et dans ce contexte-là, alors que le Seigneur il est en train de montrer, oui, si vous priez, si vous avez cette foi, ce combat de la foi dans la prière, alors vous pouvez être béni. À ce moment-là, il s'arrête et il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est une parole encore qui nous fait trembler, mais qui doit nous encourager à dire, moi je ne veux pas être de celui qui s'assoupit. Tout est fait dans ce monde, je le disais, pour que notre amour soit refroidi, mais tout est fait aussi pour que notre foi soit totalement endormie. Quel a été le problème des disciples dans le jardin de Gethsémané? Ils étaient appesantis par le sommeil. Et frères et sœurs, j'ai peur quelquefois que certains puissent se laisser appesantir par le monde, par toutes les choses qui sont dans le monde, les séductions, les richesses, les loisirs, le confort. Quand, je l'ai déjà dit, mais quand on a connu l'Afrique, M. Bourneuf pourrait vous le dire encore mieux que moi, mais quand on a vécu quelques années en Afrique et qu'on vient en France, on ne peut pas imaginer la différence, le décalage qu'il y a, alors qu'on voit là-bas des gens qui n'ont rien et qui sont beaucoup plus heureux que des gens qui sont en France, qui ont tout et qui font que se plaindre continuellement, qui font que reprocher tous les avantages qu'ils ont, pourtant sont indéniables. Et le Seigneur m'a montré que c'était quelque chose qui était en train d'endormir. Celui qui ne va pas veiller, c'est en train de l'apesantir. C'est en train de le mettre dans ce sommeil. Voilà pourquoi je voulais et j'avais à cœur de vous donner cette exhortation. Prenez garde. Veillez. Priez, oui, mais veillez. Est-ce que votre vie de prière ne s'encroûte pas? Excusez-moi l'image. Mais on avait, quand on était étudiant, on avait des images un peu fortes comme ça. Il y avait ceux qui étaient en folie. Alors, ça voulait dire celui qui avait le cœur bouillant pour le Seigneur. Il fallait comprendre, hein. On était obligé d'expliquer. Et puis, il y avait ceux qui étaient moisis. Et là, on comprend bien l'image. Vous avez déjà laissé un fruit moisir un petit peu. Vous voyez à quoi ça ressemble? Est-ce que, si on ouvre les yeux spirituellement, des fois, on ne voit pas que nos cœurs sont comme ça, moisis. Il y a des moisissures qui commencent à s'installer. Ah, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est petit à petit que ça se fait. Et des fois, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Et l'apôtre Paul le dit, votre obéissance est connue de tous. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Il y a des mauvaises choses auxquelles on doit prendre garde pour s'en éloigner. C'est ce qu'il dit justement de ces personnes qui étaient là, qui enseignaient des choses qui étaient contraires à l'enseignement. Et c'est sûr que quand on écoute des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu, est-ce que c'est pas logique que notre foi s'endorme, s'atténue, puisque la parole de Dieu est la base, le fondement de notre foi? Si on commence à mettre toutes sortes de choses, de doctrines bizarres à l'intérieur de la parole de Dieu, alors c'est obligé, notre foi va défaillir. C'est obligé, notre foi va s'atténuer. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Et c'est tellement bien de pouvoir recevoir des enseignements qui nous mettent en garde. Mais l'exhortation ce matin, c'est pour que nous puissions tous autant que nous sommes, avoir cette maturité spirituelle pour être capable de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, de prendre garde à ce qui est mauvais pour s'en éloigner et de considérer ce qui est bon pour être fortifié. Il y a des bonnes choses, quand on y prend garde, elles nous rendent plus forts. Je ne voudrais pas m'attarder plus, mais il y a dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17, je lis ce passage pour vous, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul parle de ce regard qui ne se tourne pas vers les choses de la terre, mais qui se tourne vers les choses invisibles, les promesses de Dieu, la vie éternelle que Dieu a promis pour ses enfants. Et quand il dit les légères afflictions du moment présent, on a l'impression qu'il n'a pas eu quelque chose de très grave. Mais quand on lit les épîtres, on se rend compte qu'il était dans des combats pas possibles. Il était dans des épreuves pas possibles. Il a manqué d'échapper à la mort plusieurs fois. Et pourtant, il dit les légères afflictions du moment présent. Parce qu'il est tellement imprégné de ce regard sur les choses invisibles qu'il a compris ce qui était le plus important. Nous devons fixer nos regards sur la parole de Dieu, fixer nos regards sur les promesses du Seigneur, fixer même nos regards sur ses reproches, fixer nos regards sur toutes ces choses, sur ces exhortations que je vous ai partagées, afin que nous puissions devenir plus forts. Et le principal dans Hébreux chapitre 12, vous connaissez ce verset, où il est dit, ayant les regards, c'est ça le plus important, sur qui ? Sur Jésus, pourquoi ? Parce que c'est le chef, c'est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, c'est le chef. Le consommateur de notre foi. Celui qui va pouvoir faire en sorte que notre foi qui a défailli, que notre foi qui s'est attiédie, que notre foi qui est en train de s'endormir, puisse revenir comme le Seigneur le veut. Il n'y a qu'une personne, c'est le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur maintenant, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes de ceux qui vont dire « Oui Seigneur, je veux te servir. Je ne veux pas faire ce que je veux, le service qui me plaît à moi. » Mais Seigneur, je veux offrir ma vie comme un sacrifice vivant. Seigneur, je veux simplement t'obéir. Même si tu me demandes, Seigneur, de passer le balai, je veux t'obéir. Même si tu me demandes de partir dans un pays lointain pour prêcher la parole, dans des conditions difficiles, de quitter ma famille, Seigneur, je veux t'obéir. Qui ce matin va se joindre à moi pour dire, Seigneur, je veux offrir ma vie, mon corps, comme un sacrifice vivant. Qui ce matin va choisir de prier, mais de aussi et surtout combattre dans la prière, d'avoir cette vie de prière fervente, d'avoir ce zèle, d'avoir cette compassion pour les personnes pour lesquelles je vais prier. Et peut-être qu'il va arriver des moments où on va être dans ce moment où on ne sait pas pourquoi prier, on n'a pas cette envie, on n'a pas ce désir. C'est le meilleur endroit pour dire, Seigneur, déverse ton amour par le Saint-Esprit. Tu vois, je prie pour cette personne, mais je le fais du bout des lèvres. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Aide-moi à l'aimer comme toi, tu l'aimes. Et quand vous allez faire cette prière, frères et sœurs, c'est sûr que vous allez combattre dans la prière. Qui ce matin va dire, oui, Seigneur, je veux prendre garde, je veux veiller. Je veux prier, mais je veux veiller surtout. Je veux persévérer. Je veux, Seigneur, être fidèle dans le temps. Je ne veux pas me relâcher, Seigneur, afin que juste quand tu vas revenir, je puisse être trouvé ferme, debout, et que tu puisses me prendre avec toi. C'est vrai, Seigneur, que tu reviens bientôt. Mais Seigneur, je veux être de ceux qui seront debout à ton retour. Éternel, bénis ces instants. Merci pour ta parole, merci, parce que tu es le Dieu qui se plaît à nous exhorter. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui se plaît à nous encourager. Tu es le Dieu qui se plaît aussi à nous dire la vérité, afin que nous puissions être transformés, libérés même, affranchis par la vérité. Seigneur, ce matin, c'est ce que nous avons fait. Nous avons simplement lu ta parole. Nous avons simplement exprimé ce que ta parole voulait dire. Alors, par le Saint-Esprit, libère les captifs. Par le Saint-Esprit, Seigneur, réchauffe nos cœurs, redonne à nos cœurs cette ferveur, ce zèle pour toi, afin que nous puissions être de ceux qui te servent, de ceux qui combattent dans la prière. Merci Éternel pour ce que tu fais, grave cette parole dans nos cœurs. Merci Éternel pour ce que tu es celui qui conduit nos vies. Oui Seigneur, tu sais ce qui est passé, tu connais ces années qui sont passées, tu sais aussi les années qui sont à venir Seigneur. Mais nous choisissons simplement de faire une chose, de mettre tout cela entre tes mains. Merci Éternel. Amen.